le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, merci de nous trouver encore une fois pour ce magazine des Nations Unies. Dans les titres, les troupes rwandaises ne sont pas présentes en RDC, constat de la MONUSCO après une vérification sur le terrain à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les détails dans l'actualité de la semaine. Le 4 février, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de lutte contre le cancer. Quelle est la situation en RDC? Vous retrouverez tout à l'heure Jean-Pierre Elali. Il s'entretient dans un instant avec le représentant résident de l'OMS en RDC. Les humanitaires ont besoin d'environ 893 millions de dollars pour leur intervention en RDC en 2013. Dans cette édition, Moustapha Soumaré, coordonnateur humanitaire des Nations Unies, dévoile le plan d'action de cette année. Il sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Il n'y a pas de troupes rwandaises aux environs de la ville de Goma, dans le Nord Kivu. Déclaration faite par le porte-parole militaire de la MONUSCO mercredi dernier, lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, le colonel Félix Bass a également parlé de la position des éléments du M23 et de la sécurisation de la ville de Goma. Jean-Pierre Elali Coco pour les détails.
Le colonel Bassé affirme que la MONUSCO a dépêché deux patrouilles à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour vérifier la présence militaire rwandaise. Et leur constat est qu'il n'y a pas de troupes rwandaises venues renforcer les M23. Colonel Bassé.
Maintenant, concernant justement ce déploiement de troupes rwandaises le long de la frontière avec la RDC, effectivement, nous avons eu vent de cette information et immédiatement nous avons déployé deux patrouilles de réaction, forces de réaction rapide sur les deux lieux qui avaient été initialement indiqués par les informations qui nous sont parvenues. Et immédiatement nous avons aussi informé le général Muhezi, qui est le chef du mécanisme conjoint de vérification à Goma, et nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté qu'il n'y avait pas de déploiement de troupes rwandaises jusqu'à preuve du contraire, mais nous avons trouvé des éléments du M23, une dizaine ou une quinzaine qui étaient sur place. Ensuite, nous avons escorté le mécanisme conjoint de vérification sur les lieux et ils ont eux-mêmes de visu constaté qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises. Et je pense que c'est bien la radio Okapi de Goma qui a fait une interview avec le général Muhezi, qui est le chef du GVM, qui a bel et bien déclaré que effectivement ils avaient constaté un léger renforcement des troupes du M23, mais qu'ils n'avaient pas vu des troupes rwandaises déployées aussi bien dans le sol congolais.
Concernant les positions des troupes du M23 par rapport à Goma, le porte-parole militaire soutient qu'elles n'ont pas changé depuis leur départ de Goma. Elles sont à 4 km de la capitale du Nord Kivu. Pour l'instant, c'est les bataillons de FARDC, la police nationale congolaise et la MONUSCO qui assurent la sécurité des Goma. Écoutez encore le colonel Bassé.
Le M23 est effectivement aux portes de Goma à 4 km. C'est une position qui n'a pas évolué depuis lors. Mais seulement, comme vous le savez aussi, c'est suite à un accord entre les chefs d'État qu'il avait été décidé de déployer dans la ville de Goma un seul bataillon. Mais comme vous le savez, les FRDC ont déployé un bataillon à Goma qui continue à sécuriser, en collaboration avec la PNC qui est revenue à Goma, sécuriser les populations. Et nous avons toujours nos positions et nous continuons à mener nos activités quotidiennes.
Par ailleurs, au cours de la même conférence de presse, la MONUSCO a annoncé la reddition de près des 300 M23 qui se sont rendus dans les bases de la mission onusienne au Nord Kivu.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. En Afrique, environ 100 000 personnes meurent chaque année de cette maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Bien que des statistiques ne soient pas encore disponibles pour la RDC, le cancer tue dans ce pays aussi. Et le docteur Léo Degal-Bazira, représentant de l'OMS en RDC, décortique aujourd'hui avec Jean-Pierre Elali Coco le concept cancer, ses caractéristiques, les facteurs de risque ainsi que la problématique du dépistage précoce. Suivez leur entretien.
Docteur Léo Degal-Bazira, bonjour.
Bonjour.
D'abord, docteur, pour les profanes, qu'est-ce que c'est le cancer?
Le cancer, est une multiplication anormale des cellules qui composent une partie du corps. Cette multiplication n'obéit plus aux règles habituelles de multiplication des cellules et la multiplication anarchique aboutit à la constitution d'une tuméfaction, d'une tumeur.
Tuméfaction, tumeur, c'est quoi?
C'est une grosseur qui apparaît dans une partie du corps et qui continue à grossir et qui souvent envoie même des cellules dans d'autres parties du corps. C'est ce qu'on appelle des métastases.
Docteur, comment se présentent les cancers et quelles sont les caractéristiques? Est-ce qu'on peut en avoir une idée?
Alors, il y a plusieurs formes de cancer. D'abord, comme je vous l'ai dit, chaque partie qui constitue le corps peut être le siège du développement d'un cancer. Par exemple, les os peuvent donner une forme de cancer. Le sang, lorsqu'apparaît ce phénomène de multiplication anarchique des cellules, peut être le siège du développement d'un cancer. Et ainsi, il en va de tous les organes du corps. Le foie, le cerveau, les poumons peuvent être le siège du développement anarchique de cellules à l'origine du cancer.
Alors, quels sont les facteurs qui favorisent les cancers en République démocratique du Congo?
Pour un certain nombre de cancers, la recherche a permis d'identifier les facteurs de risque. C'est ainsi que parmi les facteurs de risque les plus connus, il y a le tabac qui cause généralement les cancers du poumon, mais également les cancers de la gorge. Vous avez également l'alcoolisme qui peut être à l'origine des cancers du foie, notamment par l'intermédiaire du développement d'une cirrhose au niveau du foie. Et vous avez également le manque d'exercice, l'obésité, qui sont autant de facteurs de risque.
Vous l'avez dit dans votre message, cette maladie est curable. Est-ce qu'il y a des conditions ou même dans quelles proportions, on peut, sur le plan statistique, on peut parler de la curabilité de cette maladie?
Alors, d'une manière générale, le cancer, lorsqu'il est découvert assez tôt, peut être guéri, peut être traité et guéri. Et c'est tout l'intérêt qu'il y a à diagnostiquer assez tôt, très tôt le cancer, de façon à pouvoir mettre en œuvre tous les moyens de traitement qui peuvent être la chirurgie, les médicaments, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie, ou bien l'irradiation de la tumeur, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie. Tous ces moyens peuvent soit être utilisés isolément ou en combinaison, ce qui permet de guérir un certain nombre de cancers, surtout lorsqu'ils sont détectés assez tôt. Mais il semble beaucoup plus intéressant de jouer sur la prévention.
Est-ce qu'on peut avoir un aperçu global de la lutte contre cette maladie qui est dangereuse en Afrique, dans le monde, mais bien sûr concernant la RDC?
Oui, malheureusement, nous manquons de statistiques tout à fait fiables sur cette maladie qu'est le cancer. Mais d'une manière assez globale, on sait qu'en Afrique, environ 100 000 personnes meurent chaque année du cancer.
Et en RDC?
En RDC, malheureusement, nous n'avons pas de chiffres très précis. Il y a bien sûr des démarches pour constituer le registre du cancer qui à terme nous permettra de savoir combien de personnes souffrent du cancer et combien de personnes en décèdent chaque année.
Ah, donc c'est un problème sérieux. Alors, quelle est la part de l'OMS dans la lutte contre les cancers en RDC? En d'autres termes, quelle est pour l'instant l'implication, les degrés d'implication de l'OMS en RDC dans la lutte contre cette maladie?
L'OMS s'est investi effectivement pour essayer de pallier à son manque d'informations. Et l'OMS appuie le développement des registres du cancer, mais également appuie d'une manière générale les enquêtes pour connaître l'incidence et la prévalence des maladies dites non transmissibles et parmi lesquelles le cancer occupe une bonne place. Donc pour l'instant, ces outils sont occupés à être mis en place avec l'appui de l'OMS connaissent. Et d'ici quelques années, nous pensons que nous pourrons avoir des données assez précises, comme dans les autres pays, sur cette maladie.
Vous venez de donner des chiffres et on peut dire que les perspectives sont plutôt sombres parce que selon les études menées au niveau de l'OMS, le nombre de cas se doublera d'ici 2030. Pourquoi cela alors que en médecine, on enregistre quand même certains progrès sur le plan médical?
Oui, effectivement, si rien n'est fait, les perspectives sont assez sombres. Les estimations donnent des projections de 22 millions de cas chaque année à l'horizon des années 2030. Mais ces chiffres sont des projections qui sont basées sur l'état actuel des connaissances. Et certainement, avec une meilleure connaissance du cancer, des facteurs de risque du cancer, et également un meilleur développement du dépistage d'un certain nombre de cancers, ces chiffres pourront s'infléchir.
Mais on parle aussi des dépistages précoces. En RDC, les spécialistes de la lutte contre cette maladie préconisent les dépistages précoces. Et c'est votre point de vue? Ça c'est un. Et de deux, à partir de quel âge on peut se soumettre à ces dépistages et avec quelle périodicité?
Oui, vous faites bien de souligner l'importance du dépistage. Mais là, de nouveau, il faut se rappeler que le cancer peut se développer à partir de n'importe quelle partie du corps humain et que donc le dépistage n'est pas souvent faisable pour tous les types de cancers. On sait actuellement que le dépistage marche très bien pour un certain nombre de cancers, tels que le cancer du sein, le cancer du col, où il existe des méthodes du col de l'utérus, où il existe des méthodes confirmées de dépistage, et également pour le cancer de la prostate chez l'homme.
Oui, vous parlez des dépistages précoces. Est-ce que les hôpitaux congolais sont dotés d'équipements adéquats pour assurer un dépistage précoce de cette maladie?
Pour les deux premiers cancers dont j'ai parlé, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, les hôpitaux sont équipés pour pouvoir effectuer ce dépistage. Et en particulier pour le cancer du sein chez la femme, le dépistage commence par l'auto-examen par la femme elle-même. Dès qu'on découvre une anomalie dans le sein, il faut aller consulter un médecin qui effectuera les examens nécessaires. De même que pour le cancer du col de l'utérus, il existe des méthodes assez simples qui permettent de dépister, mais là, ça nécessite un examen spécialisé qui est disponible dans la plupart des hôpitaux en République démocratique du Congo et qui permet de dépister ce cancer en stade précoce. Pour le cancer de la prostate, cela nécessite un équipement un peu plus spécialisé, notamment des tests sanguins.
Qu'on ne peut pas trouver ici en RDC?
Qu'on trouve en RDC, qui sont faisables en RDC, mais qui ne sont pas utilisés à grande échelle.
Docteur Léo Degal-Bazira, je rappelle que vous êtes représentant de l'OMS en RDC. Je vous remercie.
Je vous remercie.
Et dans les nouvelles, en bref, 3,5 millions de personnes sont à l'insécurité alimentaire dans la province du Sud Kivu. C'est ce que révèle une enquête menée conjointement le 22 janvier dernier par le ministère provincial de l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO et le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Ce document indique que la situation alimentaire reste précaire dans cette province. Globalement, 62% des ménages y sont affectés par l'insécurité sous la forme sévère ou modérée. Il faut savoir qu'une personne est en insécurité alimentaire lorsqu'elle ne peut ni produire ni acheter de la nourriture en quantité suffisante. Inclusion et droit de participer à la vie publique, c'est le thème arrêté et développé mercredi dernier à Kinshasa par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH au cours d'une journée de réflexion et de sensibilisation sur le droit des personnes vivant avec un handicap. Une cinquantaine de personnes vivant avec handicap ont participé à cette journée. Cette activité entre dans le cadre de la clôture des activités commémoratives de la 64e journée internationale des droits de l'homme. Enfin, développement, inauguration, jeudi mercredi dernier à Kimpese dans le Bas-Congo d'une unité de traitement du manioc, un projet exécuté par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, grâce à un financement du gouvernement japonais à hauteur de près de 3 millions de dollars américains. Après le manioc, la prochaine phase du projet cible la valorisation des fruits.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour que la crise humanitaire de la RDC ne soit pas une crise oubliée. Des propos du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des affaires humanitaires Mustapha Soumaré. Dans un entretien avec Honoré Missenga Kalala, ce dernier dévoile pour vous les grands axes du plan d'action humanitaire 2013 pour la RDC. Suivez cet entretien.
Monsieur Mustapha Soumaré, bonjour.
Bonjour.
Que retenir du plan d'action humanitaire 2013 en RDC Congo, d'abord en termes d'acteurs en présence et des besoins financiers?
Le plan d'action humanitaire, c'est avant tout un document stratégique pour la planification du travail des humanitaires. Ceci se fait vraiment dans un processus très participatif où on a tous les acteurs concernés. D'abord au niveau du gouvernement, toutes les parties concernées. Ensuite, tout le système des Nations Unies, les grandes agences humanitaires telles que l'UNICEF, le PAM, l'Organisation Mondiale de la Santé, le ACR, l'OCHA, etc. pour ne pas oublier les autres. Mais en même temps aussi avec les partenaires des ONG, aussi bien nationales qu'internationales. Alors, ce qui fait que pour 2013, nous avions utilisé ce processus participatif pour arriver à un cadre stratégique pour lequel nous allons maintenant chercher le financement à travers les partenaires pour un coût d'environ 893 millions de dollars. Vous vous souvenez tous vraiment de la crise humanitaire qui a été justement générée par le mouvement M23. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec une population déplacée de plus de 2,7 millions. Donc ce qui veut dire que les besoins vont augmenter et surtout que les perspectives aussi, quoique nous sommes tous en train de souhaiter que tout le processus de négociations diplomatiques, mais aussi la détermination du gouvernement congolais d'arriver à une paix durable dans l'Est, que cela va aboutir, parce que cela va certainement permettre justement de ramener la situation à des niveaux beaucoup plus respectables. Donc, notre scénario, c'est que compte tenu de ce que nous voyons actuellement, c'est de nous préparer pour le pire. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons pris un scénario qui semble être le scénario le plus probable et qu'on a d'ailleurs vécu pour ne pas avoir justement les problèmes que nous avons eus l'année passée, parce que vous savez, quand on avait planifié, personne n'avait mis le facteur M23 et on était obligé de faire face à cela.
Et quelles sont vos priorités par rapport à ce scénario du pire?
Tous les domaines sont prioritaires dans un plan d'action humanitaire. Ce que nous faisons, c'est vraiment d'avoir des objectifs stratégiques. Et parmi les objectifs stratégiques, la première priorité pour nous, c'est vraiment la protection de la population civile. Vous savez que dans les moments de crise, ces populations subissent tellement d'actes qui dégradent même la dignité humaine. Et il faudrait vraiment faire quelque chose là-dessus. Deuxièmement, c'est de pouvoir réduire la morbidité et aussi la mortalité. Nous, notre crainte en tant qu'humanitaire, c'est que la situation s'empire et que nous allions dans ce que nous avions vu en 2012 avec l'avènement du M23. Mais aussi notre espoir, c'est de voir en sorte que toutes ces négociations et cette détermination au niveau du gouvernement, que ça puisse aboutir pour quelque chose qui pourrait vraiment atténuer la crise à l'Est.
À vous entendre parler, monsieur le coordonnateur humanitaire, c'est comme si la crise humanitaire en RDC, c'est seulement le Kivu, Ituri, en province orientale et le Katanga. En d'autres termes, le centre et l'ouest du pays en sont épargnés et donc ne sont pas concernés par votre plan d'action.
Vous savez, les humanitaires, et peut-être c'est ça un peu le problème des humanitaires, nous sommes obligés simplement de nous attaquer là où nous pensons qu'il y a des crises, où il faut pouvoir sauver des vies. Et jusqu'à présent, là où vraiment la situation a été la plus critique, c'était à l'Est. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas quelque chose dans les autres zones, parce que n'oubliez pas que dans les autres zones de l'Est et du Centre, il y a quand même des problèmes réels humanitaires qui se posent, mais ce ne sont pas des problèmes qui sont induits par un mouvement quelconque. C'est vraiment lié très souvent à la nature, les catastrophes écologiques, les inondations, etc. et tout, qui ont quand même aussi une réponse. Nous répondons à ça, cela, et c'est ce que j'appelle d'ailleurs le grand silence, parce que ça se fait de façon tranquille et souvent ça se fait même dans le cadre des activités qui sont menées par le reste de l'équipe pays dans le cadre de leur programme. On n'en parle pas beaucoup.
Quelle garantie avez-vous de la part des bailleurs de fonds, surtout que ces derniers sont aussi sollicités par d'autres crises humanitaires sur le continent et même ailleurs? Je pense ici notamment au cas de la République centrafricaine, voisine de la RDC, et du Mali, un peu plus loin.
Vous savez, c'est pourquoi je dis il faudrait aussi que nous puissions faire un grand plaidoyer pour la République démocratique du Congo, pour que ça ne soit pas la crise oubliée. Parce qu'il y a les crises au Mali, en Syrie et tout, parce que les populations souffrent. Nous n'avons pas vraiment de raison de douter du tout de l'appui des partenaires. Déjà en 2012, nous avons eu un appui extraordinaire des partenaires. En tant que coordinateur humanitaire, je ferai tout ce que je pourrai pour aller sensibiliser dehors les partenaires pour que nous puissions atteindre au moins le niveau de l'année passée, sinon plus. Mais en même temps, et je compte aussi associer autant que faire se peut le gouvernement congolais pour qu'ensemble nous puissions aller dehors et convaincre les partenaires que si on ne résout pas la crise ici, humanitaire, au Congo, je ne vois pas quelle crise on va pouvoir résoudre en Afrique.
Monsieur Moustapha Soumaré, je rappelle que vous êtes le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des affaires humanitaires. Vous êtes également le représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo et coordonnateur humanitaire des Nations Unies. C'est d'ailleurs à ce titre que nous vous recevions pour parler du plan d'action humanitaire 2013 pour la RDC. Merci de votre disponibilité.
Le plaisir est pour moi. Merci.
Au nord Katanga, l'ONG de déminage MAG a démoli en milieu de la semaine qui s'achève des engins non explosés à Kalemi. Nous sommes dans la province du Katanga. Cette action de MAG, tout comme les autres actions que cette ONG mène depuis plusieurs années, résulte d'un partenariat avec UNMAC, l'agence onusienne de coordination de lutte anti-mine. C'est un reportage d'Expédie Mwamba.
En début de semaine déjà, l'ONG MAG annonçait à la population de Kalemi la démolition pour jeudi, dans la matinée, des engins non explosés. Cette destruction s'est faite à la périphérie de la ville de Kalemi. Il s'agissait d'une bombe découverte au village Moulangué, plus ou moins 25 km à l'ouest de Kalemi, une autre bombe à Tabakongo, une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville. Le troisième engin non explosé a été découvert à une quarantaine de kilomètres de Kalemi sur la route vers Nyuzu. Ces engins ont été découverts il y a plusieurs semaines et la population de ces lieux était informée par le marquage. L'ONG MAG a finalement pu les enlever pour les détruire. L'ONG MAG travaille en partenariat avec UNMAC, agence onusienne de coordination de la lutte anti-mine, comme l'explique Dani Maki Dissa, assistant chargé de l'assurance qualité.
MAC, il est notre partenaire depuis longtemps, ça fait déjà plus de 5 ans, ici à la République démocratique du Congo, dans le cadre de la lutte anti-mine. Et ici, dans le nord Katanga, nous travaillons avec MAC pour faire la démolition, le déminage, ainsi de suite.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Eux, ils sont sur terrain, ils découvrent les engins et viennent vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se déroule un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans aller trop dans les détails?
Nous avons les organisations nationales et internationales. Dans les organisations, nous utilisons les organisations nationales pour faire l'enquête et la sensibilisation. Et quand les organisations nationales nous envoient les rapports au bureau, alors nous donnons la tâche à MAG pour faire la démolition.
Le partenariat entre MAG et UNMAC en RDC dure depuis 7 ans. Kalemi, Expédie Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je me nomme Nana Rosine Gangwe. Je suis mariée, mère de 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Je suis actuellement fonctionnaire des Nations Unies. J'évolue à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en sigle du MONUSCO, où j'occupe les fonctions de chargée de l'information. En tant que chargé d'information, mon rôle est de travailler de concert avec les collègues pour mettre en œuvre la stratégie de communication de la mission et faire en sorte que le mandat, les activités de cette mission soient bien comprises par la population congolaise. Je suis journaliste de formation, j'ai été formée dans mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, le Congo d'en face, comme disent nos collègues de Kinshasa. Et donc, j'ai été formée en sciences et techniques de la communication, option journalisme, sanctionnée par une licence. Ouais. Tout de suite, j'ai embrassé le monde du travail en tant que journaliste reporter, mais journaliste correspondante de presse. J'étais pratiquement l'une des premières femmes à assumer ce rôle de correspondante de presse dans mon pays, pour une agence internationale Interpress Service. Après la représentation au niveau national, cette agence m'a fait confiance et m'a envoyé travailler au Zimbabwe, à Harare, en tant que responsable desk français, mais dans un pays anglophone. Et de là, l'agence a ouvert une aile francophone à Cotonou, au Bénin. J'ai été chargée à l'époque de diriger cette nouvelle structure de l'agence en tant que rédactrice en chef responsable de l'aile francophone Interpress Service. Après IPS, Interpress Service, j'ai occupé les fonctions de chargée de communication auprès du facilitateur du dialogue intercongolais, l'ancien président du Botswana, Ketumile Matsiré. Donc j'étais chargée de communication à l'époque. Il s'agissait justement de faire en sorte que toutes les sensibilités soient réunies, soient prises en compte, sensibilité au niveau de la couverture médiatique de cet événement, donc soient prises en compte et représentées à ce forum-là. Donc, nous sommes partis de Gaborone et de l'Éthiopie, Addis Abeba, puis de Sun City. Où j'ai conduit cette communication de la facilitation avec beaucoup de fierté, j'allais dire. Après la facilitation, j'ai été recrutée à la MONUSCO, à l'époque MONUC, en tant que chargée de l'information, comme je le disais tantôt, et j'assume cette tâche depuis près de 10 ans. Actuellement, je suis en charge du volet élection du mandat de la MONUSCO. Il s'agit justement de faire en sorte que l'appui que la MONUSCO apporte à l'État congolais en matière électorale soit bien comprise par la population congolaise. Nous travaillons de concert avec les collègues de la division électorale pour appuyer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication et de sensibilisation. Comment je gère mon temps libre? Je suis assez casanière, je dois le dire. Quand je rentre chez moi, je sors pratiquement pas. Donc j'aime bien la lecture et en ce moment-ci, je suis sur une lecture assez philosophique. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Paulo Coelho. Il a publié dernièrement un livre, Alep. Une lecture philosophique nous invite à ne pas nous satisfaire des situations de routine. Invite à prendre le courage de prendre le pas de changer quand une situation ne nous convient pas. Je suis à peu près dans cet état d'esprit. Je n'ai vraiment pas de préférence musicale, mais je suis assez vieux jeu, si je peux le dire. J'aime bien les vieilleries de la musique congolaise, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, la rumba, j'aime bien. Et aussi, j'apprécie beaucoup toutes les musiques engagées que l'on peut entendre dans ce monde, Bob Marley par exemple, j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je ferai une fois après la MONUSCO? Moi je pense qu'après avoir engrangé une telle expérience au niveau international, je ne suis pas de ceux qui voudraient faire une carrière aux Nations Unies, non. Moi je rentrerai chez moi, je mettrai à la disposition de mon pays cette expérience acquise au niveau international. Pourquoi pas créer une agence de communication? C'est l'un de mes objectifs. Je vous remercie beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Bonjour, je m'appelle M. Talima Koufanikisa, serveur dans un restaurant. Ma question s'adresse à la FAO. Quelle est l'action compte entreprendre la FAO pour faire face à la crise alimentaire et agricole dans l'est de la RDC, compte tenu de la situation sécuritaire et qui est vraiment instable, et notamment depuis l'occupation par les M23 du Nord Kivu. Que compte faire la FAO en faveur des déplacés après la crise actuelle dans cette province? Merci beaucoup.
Et pour vous répondre, nous avons contacté un expert de la FAO. Il vous parle ici de la crise alimentaire et humanitaire au Nord Kivu.
Oui, je crois que la question de votre auditeur demande une explication préliminaire sur le système des Nations Unies, sur son fonctionnement. Il faut savoir que chaque agence des Nations Unies a un mandat spécifique. La FAO s'occupe d'agriculture, d'élevage, de pêche ou même encore de forêt, mais n'effectue pas de distribution alimentaire d'urgence. Ça, c'est le mandat du PAM, donc du Programme Alimentaire Mondial. Bien que la FAO soit déjà présente sur le terrain à l'heure actuelle, notamment pour le suivi de la sécurité alimentaire, notamment en veillant à l'approvisionnement des marchés et aux fluctuations des prix sur les marchés, nous n'avons donc pas d'activité à l'heure actuelle sur le terrain. Notre activité principale se situe plutôt en deuxième phase, au moment où les personnes déplacées rentreront chez elles et pour les aider à reprendre pied dans l'agriculture et à recommencer leur production agricole. Donc nous avons déjà des projets qui sont en cours de réalisation ou bien qui seront réalisés au moment de la prochaine saison agricole. Ces projets s'adresseront à la fois aux personnes qui vont rentrer dans leur village, mais également aux familles d'accueil pour les personnes qui ne seront pas rentrées dans leur village, et également à des personnes qui seront toujours dans des camps, mais là, nous aurons plus un travail qui sera centré sur des cultures comme le maraîchage ou des choses de ce type-là. Donc ça, ce sont un peu pour les opérations d'urgence à proprement dit, mais notre accompagnement au niveau de l'agriculture se poursuivra avec des opérations de réhabilitation au cours du temps. Oui, nous avons des projets pour toute la zone est hein, où il y a des conflits et bon, nous avons des projets à l'heure actuelle qui sont assez flexibles, qui couvrent à la fois le nord et le sud Kivu et s'étendent également dans d'autres parties de la zone est où on a des conflits. Donc nous avons des projets notamment financés au travers du Pool Fund et bon, on conservera une certaine flexibilité dans la réalisation de ces projets en fonction des urgences que l'on va constater sur le terrain.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et cette semaine, dans vos agendas, cochez la date du 13 février, c'est la journée internationale de la radio. L'UNESCO encourage les pays du monde entier à célébrer cette journée qui est un hommage à ce média en tant que moyen de communication, améliorer la collaboration entre les diffuseurs et encourager aussi bien les grands médias que les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. Et bien sûr, notre magazine se propose de couvrir les activités organisées par l'UNESCO en rapport avec cette journée. C'est la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies présenté par Mila Kimwini avec l'assistance technique de William Lungamba, supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga au reportage. Vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h03 heure de Kinshasa, même heure à Akula dans la province de l'Équateur. Vous pouvez également la retrouver sur www.radiocapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de ce numéro du magazine des Nations Unies sur notre site de Radio Capi ou encore appelez-nous directement 082 30 76 630. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente journée dominicale à tous.